Je sais que tout cela est très stimulant, mais il faut continuer sur ce chemin. Cette fois-ci, en abordant des questions internationales. Comme vient de nous le décrire Pierre-André Taguieff, en parlant d'une secte intellectuelle internationale, effectivement, sur le plan intellectuel comme sur le plan de l'action, le mouvement de la déconstruction est international. Je dis déconstruction, on peut l'appeler woke, on peut l'appeler postmodernisme. Le terme en vogue, et je le dis parce que vous allez l'entendre dans une des vidéos par Helen Pluckrose, c'est Critical Social Justice, souvent abrégé, hein, CSJ. Donc c'est le terme consacré pour donc ces nombreux termes finalement se recoupent. C'est un militantisme qui revendique une justice sociale fondée sur les constats de la décolonisation, de l'inclusivisme, de l'intersectionnalité, ce qui, au fond, pose une question de validité scientifique dans la mesure où ce caractère international remet en question la pertinence des constats sociologiques, puisqu'ils sont les mêmes, quelle que soit la société considérée. Finalement, de la Suède au Canada, de la France à la Grande-Bretagne, tout n'est que domination. C'est donc une sociologie qui se refuse à faire de la sociologie, pour s'instituer, non pas comme étude, mais comme action. C'est cette dimension d'action qu'on va voir, parce que, autre problème de pertinence, finalement, cette fois-ci culturelle et politique, c'est que les manifestations de ce mouvement présumé intellectuel, eh bien, ces manifestations se présentent souvent non pas comme simple démystification intellectuelle, déconstruire prend un autre sens, beaucoup plus pratique, qui s'incarne dans des attaques personnelles qui ont ciblé et atteint des individus dans le but explicite de les empêcher d'exercer leur métier, leur recherche, et pour les délégitimer. Cette cancellation, puisque c'est le terme, fait partie du mouvement lui-même de remise en cause des savoirs que prétend être celui de la déconstruction. Donc pour nous en parler, on va commencer par une vidéo, hein, les conditions sanitaires n'ont pas permis à nos intervenants étrangers de venir tous. Donc nous avons une vidéo de Helen Pluckrose. Je la présente, elle est
I have been invited.
Elle est donc titulaire d'une thèse en littérature de University of East London. Elle est rédactrice en chef de Aero Magazine, fondatrice de l'association Counterweight, et auteur avec James Lindsay de Cynical Theories, qui a été traduit par Peggy Sastre sous le titre Le triomphe des impostures intellectuelles. Donc, elle va développer ça, c'est en anglais, c'est très clair, je pense qu'on mettra en ligne sans doute le script de son intervention ultérieurement. Elle nous parle donc de Critical Social Justice et du déni finalement de toute une tradition culturelle de progrès intellectuel et de liberté d'expression. Voilà. On va l'écouter pendant 8 minutes.
Salut. I have been invited to discuss the international impact of the theoretical framework known as critical social justice or wokeism, its unwillingness to be critiqued and how we can push back at that. Now, this is quite difficult because it manifests differently in different countries, and strategies for opposing it rely on knowing employment laws and different cultural norms. However, one thing that the countries which are most deeply affected by critical social justice have in common is a history of commitment to secular liberal democracy and the belief that we can advance in knowledge and in human rights by the free exchange of ideas. One consistency in the way the critical social justice activists work is in their denial of this, and in their will to shut down all dissent and vilify all dissenters. So it's essential to understand why the scholars and activists will not tolerate dissenting speech or engage in dialogue or debate. The grounding of the current critical social justice movement is rooted in the bastardization of postmodern concepts of power, knowledge, and language, Within this framework, knowledge is a social construct created by the powerful. These dominant groups, understood to be straight white men, get to legitimize certain knowledges that benefit them. The legitimized knowledge then becomes dominant discourses. Everybody in society learns to speak into them. This creates and perpetuates invisible oppressive systems of power, called things like white supremacy, patriarchy, and transphobia. However, it's believed most people don't even know they're doing this. Those who have been trained in the critical social justice theories have more awareness and ability to see the invisible power systems. This is where the word woke comes from. They also have the moral imperative to make the rest of us see them, affirm them, and commit to dismantling them using their specific methods. Any disagreement or resistance to affirming the above beliefs is evidence at best of needing the correct theoretical training, and at worst of a selfish wish to maintain one's own privilege and be complicit in oppression. This is often called willful or pernicious ignorance in the theory. If one genuinely believes all this, and there's good reason to think the committed activists and scholars do, of course, one cannot allow counterviews to be expressed. The concept of the marketplace of ideas, in which a range of different ideas can be expressed and people can evaluate them for themselves, simply doesn't make sense if you believe that everyone is socialized into dominant discourses. These kinds of exchanges would just cement those dominant discourses. Therefore, disagreement must be shut down and stubborn dissenters removed using the methods which have come to be known as cancel culture. So how do we respond to this? Fortunately, there remains many people who still recognise that a wide range of ideas exist and that people can and do evaluate them, and that this engenders scientific and social progress. There is, after all, considerable evidence that societies which have allowed the free exchange of ideas have achieved the greatest equality for women and for racial and sexual minorities. The average person also has a sense of the importance of secularism, that belief that people must be allowed to hold their own religious belief, but not to impose it on anybody else. People may not always, however, be accustomed to having to defend these basic tenets of secularism. Or recognise the belief system of critical social justice as something to which this should apply. Our concepts of secularism were developed to limit the power of traditional religions, and the belief in oppressive but invisible systems of power perpetuated by language is not widely regarded as belonging in that category. It does, however, belong in that category. Firstly, then, we must make this clear to more people so that we can oppose the institutionalisation of one belief system. Nobody should be coerced to affirm a belief that they have been unavoidably socialised into white supremacy, patriarchy, or transphobia, and they need to commit to dismantling it using the CSJ framework. In the same way, nobody should be required to affirm that they are born with original sin and can only find grace through confession, penitence, and the salvation of Christ. It's very useful to frame your objection in this way. Make clear the parallels between critical social justice belief system and dogmatic religious belief, the utter certainty, the unquestionable core tenets, the regarding of all dissent as evil and dangerous. Secondly, we must address CSJ on the level of ideas and challenge its core assumptions. CSJ feeds into a well-intentioned wish for greater social justice. It presents itself as the only game in town for fighting racism and other bigotries. And the only reason anyone would oppose it is because they don't care about racism or social injustice. This simply isn't true. The vast majority of people oppose such prejudices, but many do not believe in the CSJ worldview and think its methodology is counterproductive or unethical. At Counterweight, We advise people to stress their commitment to opposing any prejudice on the grounds of race, sex, or sexuality, and the importance of addressing any social injustice. Then demonstrate knowledge of the critical social justice approach, question it, and argue for a more liberal and empirical one instead. Here the evidence is clearly on your side. Is it true that racism, sexism, and homophobia are dominant discourses in society? Or are they largely regarded negatively? What do the polls say? Are we more likely to overcome remaining racism by training all white people to believe that they are racist, or by continuing to maintain and grow the consensus that racism is both stupid and unethical? What are the results of anti-racist training? Either nothing or an increase in racial tension. Where is the evidence that these critical theories of race, gender, and sexuality, etc., represent the views of the people they claim to advocate for? It doesn't exist, and suggesting that all black people, women, or LGBT people think the same way is a form of demeaning essentialism that constrains minority groups. Instead, let's hear from an intellectually diverse range of thinkers from all those groups. I could continue for several hours, but my time has run out. In short, the way I advocate for pushing back at the censorious and vilifying nature of critical social justice is to understand why it works the way it does, recognize it as a belief system that needs secularism applied to it, and be confident, principled, and knowledgeable in your challenge of it. Merci.
J'espère que tout aura été assez clair, mais elle conclut en tout cas sur le fait de voir vraiment cette culture woke comme une forme de croyance et qu'il faut donc la prendre au sérieux en tant que croyance et être le plus armé possible intellectuellement. Ce que va nous confirmer notre prochain orateur, Bruno Chaouat, qui est professeur de littérature française, directeur du Centre d'études sur la Shoah et les génocides à l'Université du Minnesota. Son dernier ouvrage, c'est « L'homme trans, variation sur un préfixe ». Et il a travaillé sur la mémoire et la représentation de l'Holocauste, enfin la Shoah, l'impact du conflit du Moyen-Orient sur la littérature et la théorie littéraire, et il va nous parler de son expérience intellectuelle autant que politique des campus américains.
Merci infiniment et un grand merci à Emmanuel Hénin, Pierre-Henri Tavoyot pour leur généreuse invitation. Alors, je vais proposer quelques pistes de réflexion concernant l'état des sciences humaines aux États-Unis. Premièrement, j'ai observé au cours des années, depuis le temps que j'enseigne, une tendance générale à faire correspondre la recherche à l'identité. Par exemple, les étudiants africains sont encouragés à travailler sur des sujets et sur la littérature africaine. J'ai vu des étudiants originaires des Caraïbes françaises ou de l'Afrique francophone désireux d'étudier la littérature française du XIXe siècle ou la philosophie continentale, s'orienter ou être orienté vers les études africaines francophones. De plus en plus, on part du principe que l'identité, la race, le genre, l'orientation sexuelle notamment, devraient déterminer le domaine d'étude. D'où l'impression que les études doivent confirmer l'identité au lieu de la remettre en question. J'étudie ce que je suis plutôt que de devenir ce que j'étudie, en quelque sorte. Ça signifie que l'identité est de plus en plus statique. Pour reprendre une distinction célèbre de Paul Ricoeur, au lieu d'une identité ipsée, nous avons une identité idem. Au lieu d'être un processus, l'identité devient une essence. C'est bien sûr l'un des nombreux paradoxes de cette nouvelle idéologie que nous avons encore du mal à nommer. Woke ne me paraît pas précis, et je dirais que déconstruction, j'y reviendrai, est un terme peut-être mal choisi. En effet, alors que l'identité semble figée lorsqu'il s'agit de race ou d'ethnicité, on note une rhétorique de la fluidité lorsqu'il s'agit de genre et de sexe. La race semble beaucoup plus statique que le sexe et certainement non performative. La performance de la négritude, par exemple, fait de quelqu'un qui est blanc un raciste ou un appropriateur culturel, cultural appropriation. Vous pouvez considérer le cas de Rachel Dolezal et la façon dont elle a été traitée par rapport à, disons, Bruce Jenner. Je pourrais revenir en discussion sur ces deux cas. D'un autre côté, le fait d'incarner l'autre sexe ou genre rend une personne fluide, trans ou non-binaire. Je dirais que l'une des difficultés de cette nouvelle idéologie est que nous ne pouvons pas vraiment y répondre avec les moyens du raisonnement logique. Freud raconte l'histoire suivante. Un homme emprunte un chaudron à son ami. L'ami se plaint que le chaudron lui a été rendu endommagé. L'homme répond qu'il n'est pas du tout endommagé et puis de toute façon que le chaudron était cassé et qu'il ne pouvait même pas l'utiliser. Il ajoute enfin que finalement il ne l'a jamais emprunté, ce chaudron. Vous voyez que la logique du chaudron, qui est pour Freud la logique du rêve, est utile pour comprendre pourquoi répondre à cette nouvelle idéologie est si difficile. Sauf que nous n'avons pas affaire à des rêveurs, mais à des militants. Il existe de nombreux exemples de ce type de raisonnement du chaudron, si vous voulez. L'un d'eux concerne le transgenre et la transition. D'une part, en effet, le souhait de transition d'un sexe à l'autre ne doit pas être considéré comme une maladie mentale et ce serait transphobe de le voir comme une dysphorie. Pathologiser le trans est considéré comme transphobe. Et pourtant, dans le même temps, des activistes trans ou LGBT soutiendront que la transition doit être couverte par une assurance maladie, hormonothérapie et chirurgie, et que pour des raisons stratégiques, il faut accepter d'être diagnostiqué comme une maladie, d'être traité comme patient. Vous voyez qu'il existe une explication à ces contradictions, je crois, et il s'agit de l'essentialisme stratégique, qui est une expression forgée, me semble-t-il, par Gayatri Spivak, qui est spécialiste de littérature postcoloniale. L'idée est de revendiquer l'essentialisme à des fins purement stratégiques pour gagner une bataille politique. L'essentialisme stratégique me semble à l'opposé de l'intégrité intellectuelle et de la recherche de la vérité. J'irais même jusqu'à dire que cette nouvelle idéologie est anti-philosophique, qu'elle remplace la recherche de la vérité par une politique antagoniste ou agonistique à la Carl Schmitt. Je suggère que la déconstruction de la logique fait partie du nouvel ordre idéologique et moral qui n'est peut-être pas si nouveau après tout. L'identité doit l'emporter sur la logique et sur la raison. La pensée réactionnaire, le nazisme, le fascisme, le nationalisme, Pierre Jourde l'a évoqué un peu ce matin, ont promu cette même façon de penser, cette même tentative de démanteler la logique dans la première moitié du siècle dernier. Considérons la conférence de Heidegger sur la logique. Le logos pour Heidegger n'a rien à voir avec le raisonnement aristotélicien. Au contraire, le logos relève de la vérité du folk, du peuple allemand, et à l'origine, bien sûr, des présocratiques. Pensez à tous les nationalismes et à tous les fascismes. En France, Jean-Paul Sartre avait remarquablement décrit l'état d'esprit antisémite, de l'antisémite. L'antisémite considérait en effet que l'on ne peut connaître la littérature française que si l'on est français de souche. L'identité et l'origine détermineraient la capacité d'un sujet à faire une expérience authentique de la littérature, de la philosophie ou de l'art. De même, je dirais que la déconstruction de la logique en tant qu'instrument d'oppression européen, blanc et colonial remplace actuellement la raison par une émotion basée sur l'identité. Elle remplace toute argumentation par le pathos de l'identité et de l'origine. Dans les années 60, et notamment lors des événements de mai 68, on demandait notoirement « d'où parlez-vous ?» Et bien sûr, la réponse était « je parle de la bourgeoisie ou de la classe ouvrière ». Bien. Aujourd'hui, de la même façon, on nous demande de décliner notre identité. Je parle en tant qu'homme blanc, européen cis-hétérosexuel avant de pouvoir légitimer son argument. C'est une forme de terrorisme intellectuel. Pendant mai 68, un étudiant demanda à Paul Ricoeur, du moins c'est la légende, « D'où parlez-vous? D'où vient votre autorité ?» C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit, finalement, de parler si vous êtes un ennemi de classe? Ce à quoi Paul Ricoeur aurait répondu, je parle, « Mon autorité provient du fait que j'ai lu plus de livres que vous. » Comme l'écrit Laurent Dubreuil dans « La dictature des identités », la question radicale des années 60, « D'où parlez-vous ?» se dégrade aujourd'hui en un « Qu'êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » Toutes les réponses acceptables étant déjà listées dans un menu mis à jour régulièrement afin de vous permettre de personnaliser le contenu de votre « moi ». Fin de citation. Vous voyez l'analogie entre cette époque 68 et la nôtre. Aujourd'hui, cependant, l'accent est mis sur l'identité de genre, de sexe et de race plutôt que sur la classe sociale. La légitimation d'un discours vient de l'origine et de l'identité présumée de l'auteur de ce discours. Un mot pour conclure sur la déconstruction, parce que je ne suis pas sûr que déconstruction au sens d'iridien du terme soit notre problème. En effet, si j'ai compris quelque chose à Derrida, c'est que le cœur de cette pensée qui n'existe pas d'origine pure. Pour Derrida, le mouvement décolonial serait aporétique, une impasse, il me semble. En tout cas, je vais parler Derrida, je ne sais pas s'il le dirait, parce qu'il suppose ce mouvement la possibilité de retrouver un stade d'humanité jamais colonisé. Or, Derrida pensait que le colonialisme était inhérent à la culture et au langage et qu'il n'y avait aucune possibilité pour une culture quelconque de se libérer du colonialisme. Je crois que la déconstruction derridienne est en fait pertinente pour combattre cette nouvelle idéologie qui semble réessentialiser l'origine et l'identité. Ce n'est évidemment pas le seul moyen, et il a énormément de limites, mais je pense que souligner l'incompréhension totale de la déconstruction par cette nouvelle idéologie serait un début. Je ne suis donc pas d'accord avec l'idée d'une continuité entre la théorie française et la nouvelle idéologie. Nous devons creuser davantage pour comprendre ce qui se passe, car ce qui se passe, au lieu de construire la pensée et la littérature comme des appareils de déterritorialisation, pour citer Deleuze, c'est en fait de reterritorialiser, de réancrer le discours dans une identité spécifique, une origine supposée. Je pense aussi qu'il y a un élément de religiosité refoulée, comme dit Helen Pluck-Rose d'ailleurs, un retour du refoulé religieux qui a à voir avec la purification et peut-être avec la religion américaine, pour parler comme Harold Bloom, qu'elle soit cette religion gnostique ou protestante ou les deux à la fois. Si vous ajoutez à cela une nouvelle politique de sécurité ou de safety à l'égard des étudiantes femelles, ça passe très mal en français, dans laquelle les administrateurs contrôlent les interactions sexuelles et improvisent des tribunaux kangourou courts, qui sont souvent basés sur la rumeur, et cette tendance à purifier l'enseignement supérieur devient assez claire. La nouvelle idéologie est donc ancrée dans une idée de purification des péchés passés qui, le plus souvent, me paraît avoir une consonance religieuse. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup pour cette synthèse. On va prolonger ça maintenant avec une intervention de Sergio Kleinerman, qui ne peut pas être avec nous, qui est spécialiste de l'étude des équations différentielles hyperboliques et de la relativité générale, qui est titulaire de la chaire Eugene Higgins de l'Université de Princeton, titulaire du prix Maxime Bochet, membre de je ne sais combien d'académies des sciences et qui constate justement comment la déconstruction atteint désormais les mathématiques dans la pédagogie comme dans la recherche. Il reprend d'ailleurs ce qui a été évoqué par Pierre Jourde ce matin, c'est-à-dire le manuel de mathématiques financé par la fondation Bill Gates et l'intervention récente de l'Association des enseignants de mathématiques américaines sur le racial bias qui accuse toute la communauté des mathématiciens de racisme sur le seul critère de la faible représentation numérique de mathématiciens noirs. Donc il va évoquer tout ça et également comparer avec le monde communiste qu'il a connu, où paradoxalement les mathématiques étaient un objet de prestige parce qu'elles constituaient une réalité objective qui commence à disparaître du monde des constructeurs.
Bonjour. I want to start by saying how honored I am to take part in this symposium. I'm glad to see that our French colleagues take seriously the enormous danger posed by deconstructionism and decolonization to everything we used to call civilization, that is, a creation, preservation, and transmission of the best humanity has to offer in the search of truth, beauty, and justice. I say humanity because while there are obvious cultural differences between various societies, we have a lot more in common than cultural relativists of all types would allow. And since I'm at this topic, I can't resist the temptation to remark that though deconstructionism and postmodernism in their current perverted US form are now colonizing the world, they were not long ago perfect examples of French intellectual colonialism. Attempts to deconstruct mathematics, deny its objectivity, accuse it of racial bias, and infuse it with political ideology have become more and more common, mostly in our schools, but increasingly also in higher education and research. Consider the following examples. We reject ideas of natural gift and talents, declares the current draft of the Californian Math Framework, which also states that it rejects the cult of genius. The concept of gifted children is a myth rooted in white supremacy, it states. There is no innate talent. Based on that insight, the framework calls for a radical reevaluation of the teaching of mathematics in Californian schools based on what it calls equity and social justice. The California Math Framework is in tune with a more notorious educational program called the Pathway to Equitable Math Instruction. The program, which was backed financially by the Bill and Melinda Gates Foundation, argues that white supremacy culture shows up in the classroom whenever the focus is on getting the right answer or when students are required to show their work, while stipulating that the very concept of mathematics being purely objective is unequivocally false. Inspired in part by these Californian initiatives, the Oregon governor has just signed a bill that exempts high school students of the need to pass proficiency tests in reading, writing, and math before they graduate. Supporters of the bill say that the old proficiency tests were unfair to students who did not test well, and that dropping them would benefit the state's Black, Latino, Latinx, Indigenous, Asian, Pacific Islander, tribal, and students of color. Note the absurd reference to Asians, who are both non-white and perform far better than all other groups, including those deemed whites. A recent report on racial bias in mathematics put together by a task force of the American Mathematical Society, which is the world's largest professional society dedicated to mathematical research, accuses by implication the entire mathematics community of systemic racial discrimination. The central justification for such a grave accusation is a lack of sufficient representation of Black mathematicians in the profession. Here are also two examples from the official blog of this American Math Society. One is posted on June 2017, and it says, if you are a white cis man, meaning you identify as male and you were assigned male at birth, in the words of the blog, you almost certainly should resign from your position of power. Remember that you live in a world where people don't succeed in a vacuum. Most success happens on the backs of others who did not consent. The author of the blog recommends universities to stop hiring white cis men until the problem goes away. She insists that if you think this is a bad or unserious idea, your sexism, racism, or transphobia is showing. the title of a Scientific American article, this was used to be a serious journal, article by Rachel Crowell in August 12, 2021, is called Modern Mathematics Confronts Its White Patriarchal Past. The central accusation of racism and sexism in the article is based on the lack of proportional representation of blacks and women in mathematics. It also voices complaints of the type that besides Alan Turing, the list of LGBTQ plus mathematicians become pretty dry. What is even more sad is that the major US academic institutions such as the National Academies of Sciences and American Academy of Arts and Sciences are themselves becoming more and more obsessed with purging anti-racists from society at large. The selection criteria for choosing the members of these illustrious societies are themselves skewed, more and more skewed, by the overarching national academic obsession called diversity, equity, and inclusion. In the name of equity and social justice, and also this diversity, equity, and inclusion, universities all over the country, all over the US, are in the process of eliminating all forms of testing which show disparities between various groups of students. In some cases, these trends are now defended by judicial actions, as is the case of the recent Ontario court decision to declare mathematics proficiency tests for would-be teachers as anti-constitutional. This is actually a very serious development. In any case, the common thread of all these developments is the idea that all groups of people identified by race, sex, gender, and sexual preferences should be proportionally represented on all human activities, and that any discrepancy to equality of outcomes can only be explained by structural discrimination. The skewed notion of equity, we are told, justifies increasing authoritarian measures enforced by an ever-increasing bureaucracy. It would be too simplistic to compare the current woke obsession with group identity with the older Marxist version of identity based on class, which was enforced by communist society, such as in my native Romania. When it comes to education, I believe the woke ideology is in fact more dangerous than the old-fashioned communism. Communism had a strong sense of objective reality anchored in the belief that humans are capable of discovering universal truths. It forcefully asserted, in fact, the absolute truths of dialectic materialism as revealed by its founders, Marx, Engels, and Lenin. Communist ideology held science and mathematics in the highest regard, even though it often distorted the formers for doctrinal reasons. Mathematics was largely immune to ideological pressure and thus thrived in most communist countries. Being skilled in math was a source of great social prestige for school children, and it was a great equalizer too. Those from socioeconomically disadvantaged families had a chance to compete on equal footing with those from privileged ones, as they did not have to rely much on the help of parents and rich home libraries. The woke ideology, on the other hand, treats both science and mathematics as social constructs and condemns the way they are practiced in research and teaching as manifestations of white supremacy, Eurocentrism, and post-colonialism. The potential damage of such a sick ideology could be enormous. A few words on how to fight it. First, take it seriously and start organizing by energizing the silent majority oppose it, because most indeed oppose it, even if they are afraid to say it. And besides everything else, insist in telling the truth, no matter the consequences, at least as long as it's soft version of totalitarianism is still not enforced by a state apparatus of repression as it was in communist countries. Your voice and example matters. This is all. Thank you.
Une conclusion intéressante dans son rapport à son expérience communiste, c'est effectivement de voir que un totalitarisme soft est encore, il est encore possible de le combattre. Mais parmi les anecdotes qu'il a données, il y a tout de même le fait que des associations comme l'Association des enseignants de mathématiques peut recommander à ses adhérents, et c'est la plus grande association de, numériquement de recherche aux États-Unis, recommander à ses adhérents blancs cisgenres de quitter leur position de pouvoir. C'est assez rare qu'on traite les profs de maths d'hommes de pouvoir, mais voilà, il faut en profiter tant que c'est le cas. Je me tourne vers un autre scientifique, Marcel Kuntz, qui est biotechnicien, directeur de recherche au CNRS, médaille d'or de l'Académie d'agriculture et expert sur la question des OGM, avec notamment un livre « OGM, la question politique » et des études pour Fondapol sur le glyphosate, sur les impasses d'une science militante et autres considérations justement à la jonction de l'idéologie et du scientifique.
Merci, merci de l'invitation et merci de l'introduction. Alors mon poste d'observation est évidemment celui d'un représentant des sciences dures, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé, à force d'observer, à des conclusions assez similaires aux vôtres, je pense, et notamment de ce qu'a dit ce matin Pierre Jourde. J'ai démarré un peu l'engagement dans le débat public par des controverses sur des technologies, et qui, à mon avis, était en partie motivée par une certaine forme d'anticapitalisme qui voulait bloquer certaines technologies. Et c'était, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu, autrefois, les marxistes prenaient l'appropriation collective des moyens de production, et comme le marxisme appliqué a échoué, c'est finalement une certaine forme de revanche sur le capitalisme qui a gagné, en voulant cette fois-ci la destruction collective des moyens de production. Mais ça ne se résume pas uniquement à ça, et je pense qu'il y a un corpus idéologique clairement post-moderne et qui souvent est revendiqué, comme le terme des fois est revendiqué, par une chapelle de studies, cousine des autres studies en post-modernisme, qui est les Science and Technology Studies, qui est une chapelle très, très diverse, et donc peut-être tout le monde n'est pas concerné par les critiques que je vais faire, donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Enfin, ce dont je vais parler, c'est vraiment la partie de cette chapelle, de ces studies, qui est devenue hégémonique dans les institutions scientifiques, dans différents pays européens, aux États-Unis aussi, chaque fois qu'il y a une querelle politique autour de technologie. Et donc, pour moi, c'est une déclinaison de la French Theory, c'est-à-dire que tout discours de connaissance se ramène à un rapport de pouvoir. C'est souvent ce qu'on peut lire. Et je pense qu'il y a trois composantes essentielles que j'ai pu observer. C'est tout d'abord le constructivisme, c'est-à-dire que la science, au sens de science dure, hein, bien évidemment, ce dont je vais parler, c'est les sciences dures. La science et ses énoncés ne sont que construction sociale. C'est-à-dire c'est l'expression d'une opinion, d'une communauté qui partage une certaine culture, des présupposés, etc. etc. Le deuxième aspect, c'est le relativisme. Alors, j'ai lu Raymond Boudon, je pense que c'est plutôt dans le cas du mauvais relativisme, à mon avis, c'est-à-dire au sens de tout se vaut. Donc la science ne produit qu'une opinion comme une autre. Sans de valeur ajoutée par rapport aux autres opinions. Et puis il y a un troisième aspect qui est très variable suivant les auteurs, mais qui existe quand même toute une collection de citations sur ce thème, c'est l'anti-science. Donc là, c'est pas juste de l'anti-technologie, c'est aussi de l'anti-science. Et donc dans un ouvrage assez célèbre de trois représentants de cette chapelle de les Science and Technology Studies, ils citent abondamment Ulrich Beck, qui nous explique que la science produit généralement que des effets négatifs. Et donc dans ces conditions, il pose la question, comment les profanes pourraient-ils continuer à faire confiance à la science et à ses prêtres? Voilà, donc ça c'est encore une version très, très douce, je dirais, de l'aspect anti-science. Alors maintenant, avant d'examiner les conséquences pratiques ce pouvoir qui a été acquis par les Science and Technology Studies dans les instituts scientifiques, je voudrais faire une parenthèse sur un autre marqueur idéologique du postmodernisme appliqué aux technologies, c'est le principe de précaution, évidemment une création européenne. Et ce principe de précaution, généralement mal interprété, parce qu'on peut faire différentes interprétations de ce principe de précaution, donc pour moi, la mauvaise interprétation, c'est une exigence de risque zéro. Ce n'est pas forcément la définition originelle, mais c'est à quoi ça revient. Et donc, ce principe-là, il est devenu un grand principe dans l'Union européenne, au même titre que d'autres principes. En fait, ce qui est cherché, c'est un monde sans tragique. Un monde sans tragique qui est souhaité par l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut éviter toutes les tragédies passées, les guerres, les massacres, les camps de concentration, etc. Et donc, on s'appuie sur des grands principes et on espère qu'on vivra dans un monde sans tragique. Alors, les grands principes, évidemment, tout le monde va être d'accord, c'est la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, etc. Avec des dérives, évidemment, que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Et donc, pour avoir un sens tragique sur les technologies, on a inventé des nouveaux principes, c'est-à-dire le principe de précaution et le principe de participation. Je vais essayer de l'expliciter. Donc, le principe de précaution, il a poussé à créer des agences d'évaluation scientifique des risques, ce qui est très bien. Et ces agences, généralement, dans les pays membres de l'Union européenne, au niveau européen, font généralement un très bon travail scientifique. Mais ils sont souvent attaqués, on tente de les discréditer, mais enfin, ils font en réalité un très bon travail. Mais ils sont victimes des tentatives de déconstruction, justement par ce constructivisme et ce relativisme qui est imposé. Et donc, si vous pensez que la science est une opinion comme une autre, bien évidemment, vous ne pouvez pas simplement vous baser sur l'avis de ces agences scientifiques. Il va falloir mettre ça en balance avec d'autres opinions. Et donc, il y a des exemples sur lesquels j'ai publié, notamment un jour au Parlement européen, où sont invités, on aurait pu imaginer sur une controverse scientifique, il y a des gens qui veulent s'opposer à la technologie, un courant politique, et un autre courant politique qui peut-être défend la libre entreprise et défend cette technologie. On aurait pu imaginer un débat entre ces deux courants politiques à égalité avec les agences scientifiques qui viennent d'une certaine manière cadrer le débat, de dire ce que la science sait, ce qu'elle ne sait pas, et puis après le débat démocratique a lieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez au même niveau des représentants de ces agences d'évaluation des risques qui sont confrontés à des activistes anti-technologie au même niveau. Et voilà, donc c'est un exemple de ce relativisme qui prévaut au niveau de l'Union européenne, dans les différents États membres, au Parlement européen. Voilà, et donc ce constructivisme et ce relativisme impose aussi un certain nombre de notions nouvelles comme la science participative, la science citoyenne, la démocratisation de la science, etc., etc., avec lesquelles j'ai toujours mal à l'aise quand on ajoute des adjectifs à science, parce que ça, comme ça a été mentionné ce matin, ça rappelle quand même la science prolétarienne et la physique arienne. Bon, j'ai combien de temps encore? Zéro? Bon. Donc, je vais conclure. J'aurais voulu parler des États-Unis, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, on a quand même un certain fanatisme de woke qui s'est également développé. Et notamment, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on le trouve sur le site de l'Observatoire, qui veut imposer absolument la parité homme-femme en sciences de manière... considère que s'il n'y a pas une parité 50-50, c'est qu'une discrimination et qu'il faut absolument imposer cette parité. Et donc là, on est dans un fanatisme où on va absolument vouloir forcer cette parité et vous pénaliser pour vos financements de recherche si vous ne prenez pas en compte cette soi-disant discrimination entre hommes et femmes. Voilà, donc je m'arrête là. Et puis, on va peut-être en discuter de tout à l'heure pour les autres aspects. Je n'ai pas eu le temps de mentionner.
Merci. On va maintenant passer à une autre perspective, celle d'une perspective historique, avec Christophe Devogue, qui est normalien, agrégé et docteur en histoire, professeur affilié à Sciences Po, où il enseigne notamment les usages du passé, mais aussi l'histoire des idées et la rhétorique politique, ce qui est en plein dans notre sujet. Je vous fais grâce de son CV qui est de ses et ces multiples publications, parce que ça nous prendrait tout l'après-midi, et je vous invite à découvrir notamment son prochain ouvrage sur Johann Huizinga.
Merci beaucoup. Oui, le temps court et c'est toujours difficile d'être le dernier orateur. Et je vous promets que je vais essayer d'être aussi bref que possible et de vous libérer en temps et en heure en procédant selon la tradition qui a lieu à l'Université de Leyde où j'ai eu la chance de passer ma thèse, c'est-à-dire thèse, 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 thèse. Voilà. L'idée et la thèse centrale, c'est que l'histoire, cette pauvre Clio, est à la fois l'enjeu, peut-être l'enjeu majeur, hein, je ne plaide pas pour ma chapelle, je vais tenter de justifier, c'est à la fois l'enjeu majeur et peut-être une des voies de sortie, une des solutions possibles pour sortir, on va dire, de ce qu'on peut appeler cet enfermement woke. Pourquoi ? Ben pour une raison très simple. L'histoire est évidemment un enjeu majeur parce que depuis que l'histoire est histoire, elle est liée à la mémoire. Hein. Hérodote, premier livre de cette terrible histoire de l'homme occidental. Je vous rappelle, Hérodote nous dit, je vous présente mon enquête, Historia, pour faire connaître, pour sauver de l'oubli, les grands faits, tant des Grecs que des barbares. Sauver de l'oubli. D'où la relation intime, compliquée, bien connue maintenant grâce à Pierre Nora et à Paul Ricoeur, qu'on a mentionné, cette passion collective, cette recherche de l'identité, cette revendication identitaire qui passe toujours par l'histoire. C'est-à-dire que, à tout moment, toute revendication, on va dire déconstructionniste, va toucher à l'usage du passé. Bon, on retrouve aussi une idée qui est chère à Orwell, depuis toujours, depuis les Égyptiens, depuis les Romains. L'usage du passé a été un instrument de tout pouvoir, quel qu'il soit, politique ou social, car il est légitimant. Le passé nous légitime. Rappelez-vous la phrase magnifique d'Orwell, qui commande le passé commande le futur, qui commande le présent commande le passé. Autrement dit, par l'usage du passé, c'est ça le génie d'Orwell, dans cette formule souvent mal comprise, qui commande le passé assure un projet politique. Je voudrais aussi rappeler cette petite faiblesse de l'histoire qui était longtemps dénoncée, et je dirais depuis longtemps dénoncée, notamment par quelqu'un que mes étudiants ne connaissent plus, qui s'appelait Marc Bloch. Cette manie qu'ont les historiens de toujours réviser la position de l'historien précédent. C'est notre petite coquetterie de métier, notre habitus, comme dirait notre cher Pierre Bourdieu, qui consiste un peu à remettre en cause les acquis de la génération précédente, quitte à revenir aux acquis de la génération qui avait précédé la génération précédente. Et cette manie un peu qui conduit à tourner en rond m'a beaucoup frappé parce que j'ai l'âge où je retrouve aujourd'hui dans la littérature, et on vient aux États-Unis, la littérature des relations internationales et notamment de la guerre froide, je retrouve aujourd'hui des thèses que j'avais rencontrées quand j'étais jeune étudiant dans cette salle où j'ai passé de l'agrégation il y a, je ne vous dirai pas quand, mais au millénaire dernier, je vous le garantis. Bref, une sorte de serpent qui se mord la queue, on a souvent dit, de rhétorique circulaire de l'histoire qui est un petit peu la faiblesse de notre discipline. Pour en venir aux États-Unis, les Américains, puisque c'est quand même le thème de cette table ronde, sont, je crois, du point de vue historiographique, particulièrement exposés. Et c'est pour ça qu'ils ont sans doute été les premiers touchés. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a jamais vraiment eu d'école historique dominante, voire hégémonique. Dans les années 80, au moment où se développe la pensée déconstructionniste, personne ne règne sur l'histoire américaine. Alors qu'en France, faisons un comparatif, vous aviez la toute-puissante école des annales. Parce qu'aussi, et là encore Pierre Nora, mon maître, nous le rappelle, aux États-Unis, le nationalisme ne passe pas par l'histoire. Il passe par le rêve américain, the American Dream, mais aussi, et vous l'avez rappelé très justement, un très fort sentiment de morale religieuse issu du puritanisme. Et si on oublie le puritanisme, on ne comprend rien au wokisme. Je crois qu'il y a là un lien weberien tout à fait fondamental entre une mentalité collective et un phénomène idéologique. À quoi s'ajoute, et c'est toujours très frappant aux États-Unis, une ignorance très large de l'histoire, y compris dans les élites américaines. Et là, on ne va pas faire du chauvinisme, mais la France a longtemps été plus résistante grâce à une culture historique plus développée et au fait que, justement, chez nous, le sentiment national, l'appartement national, est passé par l'histoire, à la différence des États-Unis. Je n'ai pas le temps et je ne vais pas développer le cas français, mais je vais simplement vous dire, malheureusement, tout ceci a bien changé. Connaissance de l'histoire, enseignement de l'histoire, tout ceci est véritablement en cause. Mais il y a aussi autre chose qui se produit et qui est commun aux deux pays, c'est le fait que la discipline désormais majeure en sciences humaines, et on l'a même vu même dans les sciences dures, devient, pardon Nathalie Hennig, la sociologie. En fait, dans ce qu'on appelle le conflit des facultés, Pierre Bourdieu, alors qu'autrefois l'histoire était la discipline reine dans les sciences sociales, pensée à l'école des hautes études à Paris, eh bien, on voit désormais la sociologie devenir la discipline dominante. Moi, je suis frappé de voir mes étudiants, quand ils font un devoir d'histoire, se référer à des sociologues. C'est-à-dire qu'on ne cite plus Marc Bloch ou Brodel, mais Durkheim et Bourdieu. Et une sociologie qui est d'ailleurs très sélective. Vous ne trouverez jamais de référence à celui que je mentionnais, Max Weber, inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon, pour ne pas parler de ce cher Boudon dont vous avez, je crois, que vous avez évoqué tout à l'heure, ou que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui est évidemment un des plus grands sociologues de ce siècle. Mais il se pourrait, et c'est mon deuxième mouvement, que les États-Unis nous apportent aussi quelques réponses. C'est-à-dire que Clio pourrait se trouver, finalement, à la fin des fins, plus conforté aux États-Unis qu'en France. D'abord, parce qu'il y a une chose fondamentale aux États-Unis, c'est la liberté d'expression garantie par la Constitution. Et je vous signale qu'on commence à voir, lueur d'espoir, des procès gagnés par des victimes de la cancel culture. Par exemple, à Evergreen, l'affaire Weinstein, eh bien, les époux Weinstein viennent de gagner 500 000 dollars de dommages et intérêts. Quand vous prenez 500 000 dollars de dommages et intérêts à payer, une université américaine commence à réfléchir. D'autre part, parce que comme le wokisme, le déconstructionnisme, a gagné aux États-Unis avant la France, eh bien, la résistance a été aussi plus précoce. Et on sait très bien aux États-Unis qu'il y a déjà de très grandes voix qui se sont manifestées, des voix qui, hélas, sont parfois éteintes aussi, comme celle de Bernard Lewis contre les thèses de Saïd, comme la véritable fronde des historiens américains, y compris les plus liberals, c'est-à-dire en fait de gauche, contre ce projet délirant qu'on appelait le projet 1619, qui voulait faire remonter l'histoire américaine au premier esclavage et expliquer toute l'histoire américaine par le seul prisme de l'esclavage. Eh bien, tous les historiens américains, ou quasiment tous, se sont rebellés. Très récemment encore, un livre qui a fait beaucoup de bruit, soutenu comme toujours par le New York Times, sur le rôle décisif, je cite, de la Turquie ottomane dans l'histoire du monde au XVIe siècle, de la Chine jusqu'au Mexique, cherchant à nous expliquer que la conquête européenne de l'Amérique ne peut s'expliquer que par le règne de Selim le Magnifique. Eh bien, cela s'est heurté aussi à l'opposition des historiens américains. Je ne voudrais pas, encore une fois, dépasser le temps qui m'est imparti, mais vous rappeler que l'histoire, et y compris l'histoire postmoderne, peut nous aider à sortir de ces excès. Et je voudrais mentionner le fait un historien et un spécialiste de l'histoire qui s'appelle Hayden White, qui est considéré comme le pape de la postmodernité, et qui nous rappelle quand même que toute science sociale, mais à commencer par l'histoire, doit, un, respecter les faits, deux, je traduis directement, avoir une argumentation cohérente, trois, avoir une explication exhaustive. Eh bien, je vous invite tous à faire cette petite expérience dans vos sciences sociales respectives et de passer au crible les interprétations à ces trois critères. Respect des faits, cohérence de l'argumentation, exhaustivité de l'explication. Moi, je me suis amusé à le faire avec le livre d'Edouard Saïd. Vous pouvez le faire avec beaucoup de choses et vous vous amuserez, ça marche très bien et ça sépare le grain de livret à une vitesse foudroyante. En fait, nous arrivons au problème weberien, justement, par excellence, qui est celui de l'imputation causale. Comment expliquer un fait social ? Tout le déconstructionnisme repose en fait sur des erreurs d'imputation causale. C'est-à-dire, pourquoi ceci se passe ? Eh bien, la réponse déconstructionniste est toujours, ou quasiment toujours, soit partielle, soit fallacieuse. Bref, je plaide pour ma chapelle en vous disant que l'histoire a cet avantage fondamental de nous mettre en garde contre deux problèmes majeurs de la vie de l'esprit. L'ignorance des faits, et je constate que toutes les thèses déconstructionnistes en histoire reposent toujours sur l'ignorance élémentaire du passé. Et la deuxième chose, c'est le souci de l'anachronisme, et je constate aussi que toutes les thèses historiques en la matière déconstructionnistes sont fondamentalement anachroniques. Et pour cela, Clio est finalement assez bien placé pour nous aider, sinon à surmonter, du moins à affronter ces terribles défis. Je vous remercie.
Merci à tous. Je crois que nous n'avons pas le temps de passer la dernière vidéo qui sera disponible malgré tout ultérieurement. Et j'en résume tout de même l'esprit parce que c'est également un historien, c'est le professeur Robert Toombs de St. John's College, Cambridge, qui est fondateur de History Reclaimed, qui est en gros un observatoire du wokisme à l'anglaise, et qui complète justement ce constat historique sur une dimension proprement américaine qui est aussi le marketing narratif qui consiste à adopter une modernité qui est vendeuse auprès d'une génération qui paye des droits très très chers et il y a une dynamique aussi où les institutions répondent à une clientèle et il faut bien prendre en compte cette dimension proprement américaine à la fois pour la comprendre pour elle-même.